Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à ce nouvel épisode de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Dans cette 26e émission, nous allons discuter du 8e épisode de la seconde saison de The Clone Wars, Rebel Invaders. Voici un petit synopsis de l'épisode. Lorsque des vers de cerveau géonosiens prennent contrôle de leur vaisseau de ravitaillement, les padawans Ahsoka, Tano et Mary Sophie doivent se battre pour empêcher la terrible épidémie de se répandre dans la galaxie. Il a été écrit par Andrew Brisburn et réalisé par Stewart Lee. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode, et voici notre discussion. Bien, ben, bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, nous sommes rejoints par Louis. Salut Louis.
Salut mon gars.
Et évidemment Thomas. Salut Thomas.
Salut.
Alors, tout le monde a vu le dernier épisode, j'imagine.
Bah ben oui, sinon on serait pas là. Hein.
Voilà.
Je fais la petite phrase sarcastique après la tienne.
Comme d'habitude, on change pas. Alors, la petite phrase de l'épisode 208. L'attachement n'est pas de la compassion. Donc là, pour vous, ça concerne qui ?
Allez, vas-y, Thomas.
Non, vas-y, vas-y.
J'aime bien les phrases toutes pourries, allez, vas-y.
Je fais l'autre jour, vas-y.
Écoute, moi, je trouve que c'est des phrases qui sont mises dans le vent. Alors, j'imagine que ça doit concerner Ahsoka et Barry Sophie, mais voilà.
J'aurais dit Anakin aussi. Parce que Anakin, il utilise le côté obscur pour savoir comment avoir les vers. Donc, à cause de son attachement, c'est pour ça qu'il pousse un peu les limites et qu'il franchit un peu la porte du côté obscur, on va dire.
Pas faux. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais c'était vraiment une très bonne scène.
Ah oui.
Avec la petite la musique, la marche impériale, un petit peu en fond.
On va peut-être en revenir un petit peu.
Après, bah, je
on va essayer de faire un peu dans l'ordre parce que c'est vrai que c'est un moment clé, je pense aussi. Je pense que c'est une très bonne scène aussi, mais il y a tellement à dire avant ça. Quoi.
Donc, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite mention de Horde Sestus lors de l'épisode.
Mmh.
Ça fait référence au livre. Sestus Deception, je ne sais pas, c'est en français, c'est Tempête sur Sestus.
Ouais, et il y a une mention aussi de Dantooine.
Ouais.
Et moi je me suis posé la question, il me semblait que dans l'Académie Jedi, Dantooine c'était désert, qu'il n'y avait rien.
Normalement.
Donc dans la trilo de l'Académie Jedi, et que justement dans KOTOR, il l'avait complètement pulvérisé Dantooine, il n'y avait plus rien non plus.
Il y a déjà eu une bataille de Dantooine dans les Clone Wars 2D, hein. Avec l'espèce de tank qui pilonne tout là, qui est une espèce de gros.
Ah d'accord. Avec la nuée de avec Mace Windu là.
Ouais c'est ça, le tank sismique.
Là c'était Dantooine là.
Ouais.
D'accord.
Là c'est un peu une planète de fermier quoi.
Alors est-ce qu'ils y font référence à ce moment-là parce que à la Clone Wars 2D parce qu'ils disent il y a Mace Windu qui est sur Dantooine.
C'est ce que je me suis dit aussi. Je cherchais à savoir, mais bon, à mon avis, je me demande s'il serait assez bête pour pas tenir compte également des Clone Wars 2D en plus de l'UE.
Mais n'empêche, en fait, je crois j'ai l'impression qu'il y a toujours eu une base sur Dantooine parce que quand on y repense, c'est le nom que Leia donne à Tarkin dans les autres 4 pour qu'ils aillent chercher la base.
Ah oui, c'est vrai qu'ils en parlent.
Donc, je me demande j'ai l'impression qu'il y a toujours une base un peu républicaine ou rebelle là-bas. Mais bon, ça fait un peu bizarre parce que je vois pas pourquoi les rebelles ils auraient mis une. Apparemment, les impériaux ont trouvé une base rebelle désertée. Mais ce qui n'est pas logique, c'est pourquoi les rebelles auraient mis une base là alors qu'il y avait une base républicaine avant. Je pense que ça aurait dû être logique que la base devienne impériale tout de suite après à la montée de Palpatine.
Ah, c'est pas faux. J'ai plein de petites remarques sur le design et tout. Premièrement, je sais pas si ça vous a choqué, vous, c'est les clones. Les clones, là, ils avaient des coupes de cheveux, notamment un. C'était la rock'n'roll attitude, quoi.
Ouais.
Le mec, il avait du pento partout dans ses cheveux, il l'avait remonté un peu. Et, rock'n'roll.
Il avait les yeux de différentes couleurs aussi, je sais pas si vous avez vu. Il y avait des yeux bleus, des yeux marrons, enfin on voyait un peu de tout, quoi.
Bah je pense que ça,
c'est peut-être plus une anomalie, alors, parce que s'ils ont fait ça, c'est une sacrée connerie, normalement des clones ils sont tous identiques, quoi.
Ah non, c'est bien marqué, ils ont des yeux différents, ça se voit, hein, clairement.
Oui, non mais je te crois, mais dans ce cas-là, c'est une connerie encore de nous casser une animation.
Et puis ils se sont fait des petits dessins sur leurs armures aussi, ça je trouve ça bien, c'est ouais. Peut-être une manière de, voilà, d'identifier, d'avoir leur propre personnalité.
Mais alors c'est là aussi que c'est là aussi qu'on revoit pour la première fois les verts, et le deuxième truc qui m'a choqué également, c'est que ces verts-ci, contrairement aux verts qu'on avait dans l'épisode précédent qui était une daube, ils sont 10 fois plus longs que ceux qu'on avait dans les Geonosiens, quoi.
Non, on se dit, mais pas fait attention à ça.
Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je veux dire, ça ressemble pas du tout au même. Alors au début, on se dit, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même truc, quoi? Et apparemment, bon, oui, quoi, ouais. Mais bon, ça, c'est quand même bizarre.
Moi, ce qui m'a surtout choqué dans ces vers, ça a été le fait qu'il y a personne pour les gérer. Autant dans l'épisode précédent, on nous dit, enfin pour moi c'est vraiment le gros problème de cet épisode, on nous dit, ben voilà, il y a les reines, elles dirigent les géonosiens et tout, que là t'as un clone, il se prend un verre, tu sais pas qui le gère,
Surtout que la reine, théoriquement, c'est elle qui gère les géonosiens par l'intermédiaire des vers. Alors, on se dit, normalement les vers n'ont pas de pensée propre, et là c'est complètement l'inverse. Et alors là, il y a une espèce d'hommage à Stargate qu'ils ont fait. Ils ont mis, comme si c'était des Goa'uld, ils ont mis des vers comme si c'était des...
symbiotes.
Comme si c'était des symbiotes, voilà, des parasites. Et donc, non seulement ça, ils changent de personnalité, et en plus, référence, il y a un des clones qui a un tatouage sur le front. Je sais pas, ouais, mais ça vrai. Fait vraiment Stargate, là. Franchement, autant dans l'épisode précédent, ça faisait bien Starship Troopers... Autant là, ça fait vraiment Stargate, quoi.
Bah, je me demande s'ils ont pas choisi le premier clone affecté avec celui qui avait les tatouages, justement pour peut-être que les gamins le retrouvent plus facilement. Parce que comme tous les autres clones, ils avaient des cheveux. Peut-être qu'ils se sont dit, si on affecte un premier clone avec des cheveux, peut-être que les gamins, ils vont pas après reconnaître.
Cherches une excuse pourrie. À mon avis, ils ont juste fait ça pour réellement faire un hommage à Stargate. Moi, je vois comme ça. À mon avis, je pense que dans ces épisodes de The Clone Wars, tant que ça dure, on arrivera à avoir de temps en temps des clins d'œil à différentes grandes sagas et différents grands films de science-fiction, quoi. Pour moi, c'est évident qu'on a déjà eu Starship Troopers, là on a Stargate, à mon avis, on peut s'attendre à avoir un petit coup de Star Trek, de Terminator ou tout comme ça, quoi.
On a déjà eu Indiana Jones avec le bâton du sénateur dans la saison précédente. Et je ne sais plus, j'avais pensé à une autre référence que je viens d'oublier.
Bah, on a Dragon Ball Z aussi, apparemment, parce qu'il y a des Jedi qui ressuscitent, qui étaient censés être morts, là, pour le prochain épisode. Donc,
Qu'est-ce que tu racontes?
Apparemment, il y aura, enfin, j'avance un peu, mais il y aura Junk Collar, apparemment, dans le prochain épisode. Non, enfin,
Scott.
Qui ça? Bah, celui avant Junk Collar. Scott, voilà.
Mais c'est qui?
Maître c'est celui Jedi avant un John Collar, l'autre Zabrak.
Un maître Jedi Zabrak qu'on voit dans le conseil.
Et alors, il était mort normalement?
Ouais, il est plus mort.
Oh putain, il était mort dans un roman?
Je crois qu'il est mort lors de Géologiste, non?
C'est ça.
Oh putain.
Bah, c'est comment on voit Galia?
Voilà, positivement, c'est une référence à un univers différent.
Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? C'est pas un univers différent? C'est le même univers, ils sont simplement tous en train de déglinguer, comme d'hab. Putain, mais, on devrait leur couper un doigt à chaque fois une phalange pour qu'il y ait un peu plus de temps et qu'ils souffrent un peu plus. Une phalange à chaque fois qu'ils font une incohérence. C'est lamentable. Et l'autre avec son chapeau de cow-boy, il va encore refaire un commentaire en expliquant pourquoi il a fait ressusciter un Jedi. Oh là là.
Il va encore dire qu'on l'a pas vu mourir dans le film. Et donc, rien ne précise qu'il est vraiment mort.
Génial.
Bah, oui.
C'est le seul truc logique à faire.
Alors, ils vont nous faire ressusciter des Jedi comme ça, tout pourris, qu'on en a rien à faire, qu'on a vu une demi-seconde dans Genosis, dans l'épisode 2, alors qu'il y a plein de Jedi qui ne demanderaient qu'à apparaître, qu'on voit dans les comics et les romans, mais c'est, on marche sur la tête, quoi.
Oh, pour moi, il était connu, quand même. Hein. On verra avec le prochain. Mais sinon, le clone, alors moi, j'ai regardé un petit détail, j'ai l'impression qu'il est rasé parce qu'il a de la calvitie. On voit, sur le bas, il a des petits cheveux, et en haut, on dirait qu'il en a pas. J'ai noté ça, ça m'a fait rigoler. Est-ce que certains perdent leurs cheveux plus rapidement? Je sais pas. Et le gros, par contre, souci de ce clone, il sort ses œufs?
Il faudrait qu'on trouve un expert capillaire pour les prochaines émissions de The Clone Wars.
À quoi ça
pour servir? Ouais, voilà. Je vous fais une dédicace à Gaonix, là, c'est total private joke, mais c'est pas grave.
Non, donc les œufs du clone, d'après vous, ils viennent d'où?
Bah, je pense qu'il les a trouvés pas loin de là où il était. Hein.
Ah oui, parce que de toute façon, une fois qu'il s'est fait infecter par le ver, étant donné que c'est plus sa personnalité, il doit savoir où chercher, quoi. Bah, c'est pas le truc qui gêne.
Je pense que ouais, il a dû un petit peu avoir de temps de libre avant de retrouver les autres clones, avant de monter dans la navette. Donc, il a largement le temps.
Puis donc, dans cet épisode-là, on retrouve Barry, Sophie, mais moi, je trouve. Bah, je sais pas pour vous, mais je la trouve pas super attachante.
Ah, tu vois, j'aime bien.
Par contre, c'est vrai qu'on voit plus l'amitié qu'elle a avec Ahsoka cette fois-ci.
Oui, c'est vrai, ce coup-là,
alors, il y a un truc tout bidon, kitsch à souhait, c'est au début, quand ils s'en vont de la planète, là, ils partent, et on voit Ahsoka qui est en train de dormir et qui se retourne sur son petit coussin, République Galactique, avec le logo de la République.
J'ai pas vu ça.
J'ai trouvé ça, mais horrible, quoi. Ils auraient pu faire un truc tout simple, laisser simplement un coussin, mais ils ont mis un vieux logo tout pourri, qui nous met un peu partout, comme sur leur sac et tout. Autant sur les sacs, ça passe, parce que ça fait comme si c'était armure, autant là, ça fait vraiment kitsch, quoi. Tu vois, ça fait un peu l'objet de geek que toi t'achèterais pour mettre chez toi. Ça passait vraiment, c'est space, quoi.
Par contre, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de matelas. Ça doit être un peu dur pour dormir.
Ouais, bah, ils font ça à l'ancienne, ça, là. Ça les aide à méditer. Puis ça fait les abdos.
Moi, je pense que les Jedi, je pense qu'ils dorment avec des matelas, hein. Je crois, dans l'univers étendu.
C'est un matelas dur, quoi. C'est un matelas ferme, elle a choisi. Et, par contre, moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que les deux Padawan, Varys et Ahsoka, disent « Ah bah tiens, du coup, nous, on va aller là-bas, on laisse les Padawan tout seuls pour livrer les trucs, et ils n'ont même pas laissé un maître avec eux, alors qu'il y en a un paquet. Il y a Obi-Wan, il y a... le Célestéen, là, il y a Dimundi, il y a Luminara, etc. Et ils auraient pu en lâcher un. Non, tous les maîtres, ils vont d'un côté, et les Padawan de l'autre côté, quoi.
Faut dire qu'un truc de ravitaillement, ils pensent pas que c'est pas vraiment utile qu'il y ait un maître Jedi présent, hein. C'est comme une mission de second rang, hein. Peut-être que les maîtres, ils ont ils ont d'autres batailles à combattre.
Là, tu nous fais juste part de ta frustration parce que tu voudrais voir des maîtres Jedi.
Et par contre, si, j'aurais bien aimé voir le Padawan de Cadi Mundi, moi. Pourquoi lui, il l'a pas amené,
bonne question. C'est qui son Padawan actuellement?
De mémoire, je crois bien que c'était, vous savez, le Fotusken, là, Asharad Ed, c'est ça?
Oh. Ouais, n'importe quoi. À cette époque-là, il est chevalier.
À cette époque-là, il est chevalier?
Bah oui.
Bah, il lui en a pardonné un?
Bah si, sans doute, mais à mon avis, parce qu'il y en a un autre qui est mort, dans les comics, donc à mon avis, si les comics sont compressés, bah voilà quoi, c'était quoi, c'était une espèce de Morgukai. Ouais, c'était ça, ça devait être un Morgukai, il me semble.
C'est quoi ça déjà comme race? Locale gueule déjà.
Bah tu vois, c'est l'armée de l'ombre avec Bok dans le siège de Salokami dans les comics. Ouais, ils sont tout orange avec quelques cornes.
Il y a tellement de races maintenant dans Star Wars.
Et alors, il y a un truc très intéressant aussi dans la frégate, dès qu'ils sortent et qu'ils vont dans les couloirs, hop là, on se retrouve dans le Tantive IV. Magnifique référence au Tantive IV, ben, avec les couloirs tout blancs, les panneaux et tout ça.
Je pense que c'est une sorte d'ancienne version. Parce que si on regarde bien la forme totale du vaisseau, le cockpit qui ressemble un petit peu avec la forme un peu ronde et allongée, je pense que c'était l'ancêtre justement des Blockade Runner.
Bah non, parce que le Blockhead Runner, comme son nom l'indique, c'est un forceur de blocus. Ça, c'est une petite frégate médicale à l'origine.
Oui, je sais, mais c'est peut-être la même fabrication, la même...
Mais bon, là, non, à mon avis, c'est juste qu'ils ont voulu faire une référence qui est assez bien faite, parce que c'est soft, c'est très beau, c'est très Star Wars, finalement, très trilogique. Et puis voilà, quoi. Mais par contre, il y a un truc qui est très gênant, c'est qu'au fur et à mesure de l'épisode, on se rend compte qu'en fait, c'est comme s'ils étaient sur un croiseur Venator, quoi. Tellement il y a de pièces, tellement il y a de machins, alors que le vaisseau, il est tout petit. Et tu te retrouves dans des trucs, t'as des énormes hangars partout, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Niveau proportionnel, je trouve que c'était pas terrible.
Ouais, mais il est gros quand même, le vaisseau, ouais, hein, quand on le voit de loin, il est balèze, hein.
Ouais.
Encore une fois... Au niveau des images, quand on le voit poser le vaisseau, vous savez, encore sur Genesis avant qu'il décolle, je trouve c'est pareil, il y a encore une super image qu'on avait pu en évoquer là, les fois précédentes. C'est encore assez chouette hein, visuellement.
Là, c'est sûr, toute la saison pour l'instant c'est assez impressionnant visuellement. Donc si ça, je sais pas ce qu'ils
par
vont
contre,
faire.
Par contre, scénaristiquement, là ça suit plus trop, mais bon.
D'ailleurs, ce qui m'a le plus gêné, je l'ai senti qu'après avoir vu l'épisode, justement, après l'avoir revu une deuxième fois, justement, en faisant ma préparation pour Star Wars en direct, c'est que j'arrivais pas à mettre la main sur le pourquoi il m'avait pas autant plu que je le pensais au début, parce que j'avais laissé une critique sur Camille Webb, j'avais pas tellement aimé l'épisode, et j'ai trouvé, après avoir revu une deuxième fois l'épisode, ce qui me gênait, c'est qu'ils ont voulu faire un épisode un peu horreur, mais le vaisseau est trop éclairé.
Dans l'ambiance, tu veux dire?
C'est ça. C'est un vaisseau, il est blanc, tout est illuminé. Donc, y a plus vraiment de suspense, on voit tout ce qui se passe.
Non, mais de toute façon, même comme pour l'épisode précédent, le côté horreur, ils ont tout foiré, hein.
Oui, mais l'épisode précédent, c'était dans l'ombre, dans
sombre,
les souterrains, tout ça, et je trouve que c'est un petit peu mieux rendu, alors que là, c'est vraiment tout éclairé dans les couloirs, les coursives, et c'est vraiment du blanc. Donc y a plus de secret, tu vois vraiment tous les détails. Et je trouve que c'est ce qui a un peu gâché l'ambiance encore plus que l'épisode précédent encore pour moi.
Il y a quelque chose qui m'a gêné aussi, vous savez, c'est quand les clones arrivent, donc en moitié zombies là avec leurs verres, et ils leur font la force, ils les projettent contre le mur, un petit coup, je suis contre le mur. Et les mecs ils sont dans les pommes, ils se relèvent jamais. Ouais. Alors que dans l'épisode précédent, les Jonesiens, tu leur tirais des balles dans la tête, les mecs ils étaient là encore et tout. Et là les gars, on les pousse un coup contre le mur,
Peut-être parce qu'ils sont encore vivants à l'intérieur en fait.
Ouais, peut-être.
Alors que les Jonesiens, eux, étaient morts. Donc peut-être que les vers par la reine continuaient à les contrôler. Alors que là, c'est un peu différent, il n'y a plus la reine pour continuer à les contrôler, peut-être après...
Ouais. Ah, bien vu, tu m'as convaincu. Et au niveau des références, à un moment, Ahsoka, elle parle d'un clone qui était payé par Ventress et qui a trahi Anakin. Est-ce que vous avez noté la référence?
Je pense qu'ils font référence à Aiden's Enemy, non? L'épisode qui se passe avant le film de la saison 1. Moi, j'ai pas vu plus loin, mais...
Il était payé par 23, celui-là.
Je pense.
D'accord. Ok.
On a perdu lui.
Sinon, au niveau de l'échange entre les deux Padawan, j'ai bien aimé aussi la discussion quand ils sont à la cantine, même si ça reste un peu cucu parce que c'est plutôt que le noir. L'idée, je veux dire, que les Padawan échangent la façon dont leur maître les gérait, je trouvais ça assez intéressant. Enfin, surtout quand Ahsoka dit que son maître...
Ah, tu l'as dit juste avant, c'est cucu.
Mais... Bon, il y a de l'idée, quoi, et je trouve ça sympa, quoi.
Ah là là, tu verrais mettre Anakin comme il est méchant et tout. Ah ouais, c'est génial. Enfin, on les voit échanger. Ouais, mais ça se voit que t'as pas eu mettre le Minara.
Ouais, mais c'est sympa, je trouve. Ouais, ça montre aussi que chaque maître, il fonctionne différemment.
Et que ça influence son Padawan.
Bien sûr.
Il commence à voir un petit peu la même façon, même si Ahsoka a l'air d'être un petit peu plus réservée, parce qu'elle dit même à Barriss que son maître n'est pas sûr de se sentir bien après la guerre et tout ça. Donc même si elle est un petit peu influencée par Anakin, on voit bien qu'elle reste un peu plus Jedi que lui.
Elle dit que la paix ne lui fait pas plaisir. Je veux tout dire. Hein.
Donc je pense que on peut passer à la partie Anakin, Obi-Wan, Pogol.
Mm-hmm.
Donc là, tout d'un coup, Anakin, évidemment, il veut absolument récupérer sa Padawan. Donc l'interrogatoire avec Pogol. Donc je pense que c'est la scène de l'épisode.
Ah ouais, c'est la scène de l'épisode, effectivement.
Ouais,
avec
c'est
la...
très très bien rendu, une très bonne expression d'Anakin. C'est pas, on aurait pu craindre que ce soit un peu too much, comme ce qu'ils ont fait dans l'épisode 2 devant Padmé, où au début la première vision, tu te dis putain c'est ça te fait quand même vibrer, mais la deuxième tu te dis ouais ça fait un peu. Ça fait un peu too much et finalement Anakin fait un peu pitié. Sauf que là, c'est juste ce qu'il faut. Ils en montent pas trop. Ils montent une bonne expression. L'effet aussi cartoon de la tête est pas mal. Non, c'est vraiment bien. Et puis il y a une bonne musique qui a été reprise. Et puis d'ailleurs, je tiens à insister sur tout l'épisode. Je crois que de toute la saison 2, là, c'est l'épisode qui a les meilleures musiques. Hein. Ils ont réussi à mettre des musiques au fur et à mesure, une bonne ambiance, un truc assez haletant, qui est vraiment, vraiment sympa.
Surtout avec les chœurs lors des combats entre Padawan.
Et ben voilà, parce que ça c'est le truc, alors une fois que Barriss, en fait je trouve que l'épisode est un peu long à démarrer, et une fois que Barriss s'est fait mettre son petit verre là, quand on la voit arriver contre Ahsoka, alors là t'as la musique qui va bien, et en plus, là c'est un combat original pour une fois. Là, t'as pas sa chanteresse et ses affreux collants, quoi.
Non, en même temps, il l'attrape un peu facilement, les clowns, hein, Barriss. Ils se mettent autour d'elle et ils lui donnent un petit verre et hop, bah, toi, elle aurait quand même pu les maîtriser. Ils sont trois, les gars, c'est un Jedi.
Non, mais elle a plus son sabre.
Ouais, mais quand même, quoi, enfin. C'est un peu facile, parce que t'as vu quand même, pour mettre le verre, le clown, ils le tiennent et tout, et machin. Je suppose que, quand même, ils l'ont bien maîtrisé, quoi. Donc,
bon, ça reste une Padawan, mais bon. C'est pas fou, non plus.
Padawan qui se défend bien quand même. Et sinon sur la scène par rapport à notre Pogol là qui se fait étrangler, j'ai trouvé que c'était pas mal justement qu'ils aient coupé le moment où Pogol va lui dire parce que ça aurait pu être très mal fait. Je trouve le moment où il lui avoue, il aurait été trop court. Ils ont bien fait de couper.
Surtout qu'il ne parle pas le basique, donc ça aurait été plus...
Ouais, mais en parlant de langage, quand tu vois les clones en train de parler de Geonosien, ça pue du pâté.
C'est vrai.
Là, c'est... Si tu vois un humain arriver, il fait... C'est horrible, quoi, franchement. Et pour une fois, c'est moi qui fais les bruitages, c'est pas Thomas.
En plus, des fois, il me semble, il parle basique ou Geonosien, ça dépend, quoi. Ils sont bilingues, quoi.
Vas-y, essaye de voir comment tu parles de Geonosien.
Ah, je te l'ai fait l'autre jour, hein. Je fais pas sur la demande.
Ah non, ça tu me l'avais pas fait, hein.
Et par contre, le Geonosien, Pogol, il lui dit, les Geonosiens sont insensibles à la force.
Oui, c'est ça.
Il y a pas mal des espèces qui sont
insensibles. Oui, c'est ce que justement, j'avais fait là.
Contre les Huttes,
plus ça va, plus ils en trouvent, tu sais, histoire de nous faire chier.
Ça servira plus à rien d'avoir la force, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est hallucinant, quoi.
Toujours à influencer un Stormtrooper.
Au moins, pour Cad Bane, ils ont fait un esprit fort qui arrivait à résister, quoi.
Mais sinon, on revenait sur Pogol. Ça, ce qui m'a étonné, c'est de voir que le droïde n'a pas essayé d'empêcher Anakin. C'était un droïde de traduction, mais j'aurais pensé qu'il allait dire à Anakin, ce que vous faites n'est pas bien, ne convient pas, on n'a pas le droit de torturer les prisonniers, tout comme ça.
Mais c'est un droïde avec un code éthique.
Ouais, mais dans une scène poupée, on verra qu'il dit ça à Anakin, et Anakin, il le déglingue.
Ah, mais à ce moment-là, comment il fait pour savoir ce qu'il dit après? Parce qu'il a pas l'air de comprendre le Geonosien.
Ouais, bien vu. Et sinon, vous savez que dans les scènes d'action, j'ai trouvé les caméras, comme elles étaient disposées, elles bougeaient sur les côtés comme si le caméraman derrière courait en même temps. Et j'ai trouvé que ça donnait pas mal de dynamique dans les scènes d'action. Quoi.
Ouais, t'as pas mal de bons trucs, et notamment aussi quand t'as Barriss qui apparaît juste derrière l'écran de contrôle et qui pète la vitre alors qu'Ahsoka se protège avec la force et avec tout le verre qui passe à côté. Ça, c'est très très bien fait aussi. Ah, t'as des belles images, quoi. Par contre, si je reviens un petit coup sur la scène avec Anakin, y a un truc qui fait cucu, c'est quand tu le vois arriver devant la cellule. Tu te dis, ouais, c'est peut-être un petit peu trop, quand même.
Ouais, il y a un truc qui m'a un peu gêné, j'y repense, c'est que, à un moment, les clones qui rentrent dans le cockpit, ils tuent les pilotes. Je me suis dit, mais pourquoi ils essayent pas de les infecter, au lieu de les tuer?
Oui, complètement con, ça aussi, j'ai trouvé.
Ils ont facilement pu les... Surtout qu'ils ont le pilote automatique, donc ils ont pu facilement les maîtriser pour leur foutre un verre. Ils ont pu avoir des pilotes, en plus.
Et t'avais remarqué que le droïde de protocole, là, de Poggle, c'était un droïde de la flotte Open Circle. Oh. Il a le logo Open Circle sur son plastron, c'est excellent.
C'est quoi déjà cette flotte?
En théorie, c'est la flotte d'Obi-Wan Kenobi et de Anakin Skywalker. Un demi-cercle désigné en l'un et l'autre Jedi. Et c'est une flotte de la bordure extérieure. Sauf que depuis The Clone Wars, ils mettent le logo de la flotte Open Circle partout. Et autrement dit, c'est en train de devenir le logo de la flotte républicaine, tout simplement. Ouais, ils aiment bien tout détruire.
Ouais, compris.
Merci Dave.
Sinon, j'avais juste noté au tout début par rapport aux clones, les clones ils font des blagues maintenant. Au tout début, il y en a un qui dit on est des guerriers, on n'est pas des déménageurs quand ils leur demandent d'emmener les médicaments. Je trouvais ça assez rigolo, tu sais, le bon vieux guerrier mandalorien qui a pas envie de s'embêter avec des trucs comme ça.
Surtout que maintenant ils sont pacifistes donc.
Ouais, bah attends, elle dit, on est des guerriers, on n'est pas des déménageurs, ni des pacifistes.
Non, je veux pas combattre, je risque de me blesser, et de me casser un ongle.
Et puis, la petite vanne hyper grosse, quand le clone infecté se relève et qui lui dit, bon retour parmi les vivants, alors qu'il vient d'être infecté, c'est assez grosse.
La façon dont se relève le clone, c'est assez amusant. Si vous avez remarqué, l'acrobatie qu'il nous fait, hein.
Super souple.
C'est comme s'il a vu plus de... C'est comme ça reste comme un être vivant, donc même s'il est infecté, c'est un peu tout un peu possible.
Mais un truc qui est gênant aussi, c'est que Barry Sophie, finalement, son esprit, t'as l'impression qu'il c'est un esprit faible, parce qu'elle arrive pas à résister à lutter contre le parasite. Tu vois toujours les Jedi et les Sith, ils arrivent à maîtriser certains poisons ou certains trucs qui sont à l'intérieur d'eux quand ils sont contaminés. Elle fait que dalle. Alors ouais, c'est encore une padawan, mais bon, quand même.
D'ailleurs, bientôt, bon, évidemment, j'ai bien aimé le fait qu'elle demande à Ahsoka de la tuer, mais comme nous, on voit les épisodes avec notre connaissance un peu de la série, on sait que Barriss, Ophie, est vivante pour la suite. Je me demande si les gamins qui regardaient l'épisode ont peut-être cru que Ahsoka la tuait. C'est un truc dont je serais bien curieux de savoir.
Ah ouais. Ah, c'est peut-être pour faire un peu de suspense.
Oui, ça c'est sûr, mais est-ce que nous on sait qu'elle est vivante, mais est-ce que les gamins qui regardent ça, est-ce qu'il y en a certains qui ont pu se dire elle l'a tuée,
ça y est. Elle est morte, non? Filoni l'a dit, on sait pas, hein, c'est peut-être, tu vois.
Bah alors si Dev l'a dit. Par contre, c'était sympa aussi de revoir la station, Calidoa Shoal, la station médicale.
D'ailleurs, justement, un petit commentaire dans les bonus du coffret DVD et Blu-ray, c'est justement avant de voir l'épisode, il parlait déjà du fait qu'il pouvait amarrer en vertical et en horizontal.
Oui, parce que je me suis fait cette réflexion, c'est quand même bizarre que lors de Shadow of Malevolence, il s'amarre de façon horizontale, ouais. Parce que je trouvais ça magnifique, et là, ils arrivent à la verticale, quoi.
En fait, si on regarde bien le couloir, en fait, le couloir qui sort, il se met, donc ça peut être, il doit avoir une fausse gravité, donc il peut être dans n'importe quel sens. Si on regarde bien, dans les bonus, ils en parlaient, qu'ils pouvaient justement arrimer des deux façons, ça gênait pas.
D'accord.
Comme justement, ils étaient dans l'espace,
Mais ce que je trouve excellent, ben c'est un tout petit truc, hein, tu vas me dire, mais une fois que t'as la frégate qui est amarrée à la station, t'as une espèce de tunnel qui arrive pour créer un passage et faire la sortie du vaisseau, quoi. Et ça, je trouve que c'est très science-fiction, c'est très Star Wars finalement, mais c'est des trucs comme ça qui manquent un peu, tu vois, qu'on devrait voir plus souvent, ces épisodes dans l'espace sont vraiment des très bons épisodes en général, et c'est ce que t'aimerais voir un peu plus.
Et justement, c'est en parlant du couloir, qui peut être, il doit avoir une fausse gravité, donc que le vaisseau se met verticalement, horizontalement, ça change pas grand-chose. Je pense que c'est une des raisons aussi.
Et après, justement, quand donc ils sont enfin sur la station, il y a Anakin qui est là au réveil de Ahsoka, donc d'où ils sortent, pourquoi il est revenu, est-ce qu'ils ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, enfin, beaucoup de questions.
Ah,
quoi.
Peut-être parce que sa Padawan était en train de crever. Par contre, on voit encore l'autre avec son vieux sourire. Ah, c'est ouais, vraiment immonde.
Concernant Anakin, on sait pas combien de temps Ahsoka reste dans les vapes.
Oui, combien de temps s'est passé, oui.
Donc, elle peut très bien être dans les vapes depuis de plusieurs jours. Donc, ça va pas être impossible que Anakin ait eu le temps de revenir après pour la surveiller, pour lui tenir compagnie.
Et dire qu'elle aurait pu mourir de froid. Encore une occasion manquée.
Tu passes plus de temps avec Ahsoka qu'avec Padmé, d'ailleurs.
Ah. On va peut-être faire un petit plan à trois.
Vicieux.
T'es sûr que ça te paraît, Louis, non?
Désolé, mais bon, là... Bah, Tom, t'es vraiment dégueulasse, quoi. Franchement...
Et je vous dis pas, si un jour ils changent Filoni et qu'ils mettent Louis à la place, la gueule du scénario, quoi.
Alors, tu vois, je pense qu'il devrait couper la tête à Filoni et mettre John Jackson Miller à la place.
Pas trop bien.
Là, au moins, on aurait un truc qui pète. Donc, vous voyez d'autres choses à dire là-dessus?
Je crois pas qu'on arrive au bout, hein.
Alors, si personne y va, moi, je vais faire mon petit commentaire global sur l'épisode. Je pense que cet épisode, Brain Invaders, est un très bon épisode de passage. C'est-à-dire un épisode qu'on cale, un épisode de transition. C'est un très bon épisode de transition, c'est une chose qu'on voudrait voir de plus souvent. Ça nous rappelle un peu la qualité de la saison 1 qu'on n'a pas trop eu depuis le début de cette saison 2.
Attends, il y a quand même eu l'épisode, le premier épisode de l'arc de Geonosis, que d'ailleurs c'est terrible.
Non mais bon, ça d'accord. Mais à côté de ça, bon, il y a pas eu des masses de trucs quoi. Tu vas pas.
Et puis tu l'appelles l'épisode de transition, c'est transition comment? Parce que c'est le dernier épisode de l'arc de Geonosis.
Donc, ouais, mais il se passe pas vraiment sur Geonosis. Alors c'est comme si tu parles de l'épisode avec l'autre Todd là et puis Clovis Roche. Ça parle aussi de Geonosis, mais c'est pas réellement sur Geonosis.
Bah justement, je pense qu'il en fait partie, parce qu'il disait que c'était un arc narratif en 4 épisodes.
Et en 5, finalement.
Bah non, il...
Bah oui.
Mais puisque l'autre, finalement, il est relié, quand ils annoncent qu'ils vont...
Bah oui, c'est relié. Donc mais ça bon, fait... voilà, c'est relié, mais si vous voulez, pour moi, c'est un épisode de transition. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu sur Geonosis. C'est différent. C'est du... Star Wars, comme on voudrait voir, un peu beaucoup de ce qui se passe dans l'espace, avec un scénario assez bien ficelé, finalement de très belles images, une bonne musique. Non, c'est un épisode très correct, qui est très très valable. Bon, maintenant il y a cette incohérence avec les vers, parce que maintenant il n'y a plus la reine machin là. Donc c'est ça qui pourrit un peu le truc.
Ça va.
Bah écoute, moi, cet épisode, j'avais beaucoup d'appréhension hein, par rapport à la dernière semaine, avant de le voir, et puis finalement, il m'a beaucoup plu, à part finalement cette grosse incohérence pour moi, là, des vers, là, hein, j'ai trouvé ça gênant. Il m'a beaucoup plu, et je pense que vraiment, l'ambiance était vraiment sympa. Je parle notamment des musiques, mais aussi là, du petit moment où Anakin... à son côté obscur qui ressort, donc je suis plutôt content. J'arriverai pas vraiment à dire qu'est-ce qui a fait que je l'ai plus apprécié que le précédent, mais voilà, je suis assez satisfait.
Ah si, moi je peux te le dire. J'allais mort vivant tout pourri, une reine grotesque, une ambiance toute pourrie, y a plein de trucs qui font que le précédent
est
nul.
C'est une grosse incohérence quoi.
T'as une incohérence, mais il est plaisant à regarder.
Ouais. Et surtout,
pourquoi finalement tu regardes du The Clone Wars, et pourquoi tu me dis que t'as acheté pourquoi j'ai acheté le coffret Blu-ray, même si j'arrête pas de critiquer, c'est que y a plein de trucs qui sont très beaux, t'as des très belles images, t'as des épisodes qui sont très bons, comme par exemple tout l'arc sur le Malevolence quoi.
Et comme ouais. Dirait Louis, c'est du Star Wars, j'achète.
Non, ça c'est moi. Ça.
Non, ça c'est Henri. Henri. Moi, je fais attention à ce que j'achète, parce que sinon, j'aurais déjà acheté des comics de Clone Wars, super qualité.
Dernière chose que je voudrais dire sur cet épisode, moi, ce qui m'a plu, c'est surtout que maintenant les arcs narratifs font vraiment beaucoup d'épisodes. Donc finalement, on compte là en 8 épisodes, on a seulement 2 arcs narratifs, et je trouve que moi, c'est ce que j'attendais, un peu plus de continuité dans la saison. Et là, on est vraiment bien parti, parce que si on a des arcs narratifs aussi longs à chaque fois, c'est vraiment intéressant, parce que...
Ouais, mais il faut toujours qu'il y en ait quelques-uns, quand même, qui soient comme celui-là, un épisode de transition, où t'es...
Oui, mais les relier quand même.
Oui, les relier, mais il faut toujours qu'il y en ait un de... au moins trois ou quatre épisodes comme ça par saison, si t'as des arcs narratifs, hein, j'entends, trois ou quatre comme ça par saison, pour faire, tiens, un petit épisode qui soit différent du reste, tu vois.
J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, à mettre des arcs narratifs de plus en plus longs, voire même peut-être la saison 3 à faire un seul arc narratif, ce sera encore mieux.
Alors, arrête de fumer là. J'ai jamais vu ça dans n'importe quelle série, faut que t'arrêtes.
Bien sûr que si, bien sûr.
Et puis j'espère qu'ils vont refaire la suite après les épisodes 4, 5, 6, même si George Lucas a dit qu'il voulait pas les faire.
Non, attends, c'est possible ça. Hein.
Mais n'importe quoi.
Les séries de manga, trucs comme ça, c'est souvent ça, une saison.
Mais t'es pas dans une série de manga là.
Ouais, mais si tu veux, c'est une série pseudo dessin animé. Enfin, je veux dire, moi ça me gêne pas. Et encore, quand bien même, hein, même les séries américaines live, souvent c'est ça, une saison. Tu prends des trucs comme Dexter et compagnie, c'est une saison égale un arc narratif. Même Desperate, j'imagine que t'es fan, bah c'est la même chose quoi. Enfin...
Non, je suis pas fan des trucs pour votre
fan. Non, mais c'est ironique.
T'es fan de Sex and the City, c'est ça?
C'est ça. Non, mais on a Battlestar Galactica, c'est une histoire pour toute la série.
Le truc de geek. Allez, vas-y, Henri, déchaîne-toi. Qu'est-ce que t'as pensé?
Ben, moi, je suis un peu plus mitigé, donc moi, j'ai moins bien aimé que le reste.
Là, pour une fois qu'on fait des éloges, lui, il est pas content, quoi. Ouais, ah, c'est comme, grave.
C'est comme je l'ai dit.
Tu n'as pas honte?
Non, pas du tout, non. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'ambiance trop éclairée qui m'a un peu tout gâché. Je pense que l'épisode aurait gagné à être un peu plus dans l'obscurité. Mais sinon, à part, évidemment, il y a la grosse incohérence que tout le monde a remarqué avec le fait qui contrôle les vers. Et après, mais sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de, les musiques sympas, la scène avec Anakin qui est vraiment bien réussi, mais sinon, j'avoue que...
Ah ouais, et puis les références, référence Target, référence Authentif 4, non, c'est vraiment excellent, ça.
Oui, ça, c'est parti là, mais c'est vraiment l'ambiance... J'ai eu du mal à mettre le doigt dessus, mais une fois que j'ai trouvé, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Et c'est vraiment l'ambiance des couloirs blancs qui m'a un peu dérangé. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt du livre Death Trooper, c'est justement c'est que ça passe dans une barge de prison, et c'est vraiment dans l'obscurité, donc tu sais pas, t'entends des cris, t'entends des trucs
ouais,
comme
tu,
ça.
Tu le vois bien avec un bouquin.
Oui, mais je veux dire...
On est obligé de repartir sur Death Troopers.
Non.
Le truc bien. Qui n'a rien à voir avec Star Wars.
Non, c'est bon, bon. Ben voilà.
Voilà. Donc maintenant. J'étais bien pourri, là.
Bon, ça fait pas d'habitude, là, hein. J'ai l'habitude maintenant, hein.
Bon, très chers amis, demander à notre ami Henri et à notre ami Tom, c'est de pouvoir parler deux secondes des coffrets DVD et Blu-ray de la saison The Clone Wars, cette première saison, puisqu'ils viennent de sortir le 9 décembre en France. Et que, bon, voilà, Henri, lui, il a acheté la version...
anglaise.
La version anglaise, voilà. Donc, pour ma part, j'étais assez surpris, enfin... Justement, bien content que cette version française de mon Blu-ray, parce que je l'ai acheté en Blu-ray, soit avec un visuel américain.
Alors moi, si j'avais trouvé sur Internet des informations un peu plus correctes, moi j'aurais attendu la version française. Mais comme je voyais partout le vieux visuel et
attends,
le fait
franchement,
qu'il y avait
tu l'as reçu ton truc, tu l'as reçu deux jours juste avant moi, quoi.
Ah, je sais bien.
Donc,
enfin, peut-être pas deux jours, mais je l'ai eu en début semaine dernière, mais bon. C'est sûr que je l'aurais jamais commandé en Angleterre si j'avais su que le visuel, la France allait faire la même version, c'est que tous les sites où j'allais voir, c'est qu'ils arrêtaient pas de dire aucun bonus, et on avait la vieille jaquette. C'est pour ça que j'ai fini par, c'est à force de voir sur Internet qu'il y avait pas de présence de bonus que je me suis dit, bah, j'ai quand même pas payé 45 euros pour avoir juste les épisodes.
Ah, t'as une semaine avant sa sortie où ils ont dit ça, hein. Ils ont dit que ça avait changé. Et puis, bon, alors, ce coffret, il se présente avec le visuel américain, c'est-à-dire qu'on a un gros plan sur Cody, et l'ensemble du coffret est rouge. Alors, c'est vraiment très esthétique, et donc le coffret fait en sorte comme si c'était une reliure, comme un livre. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez vos trois Blu-ray, et au milieu vous avez un bouquin. Alors au début je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont greffé le bouquin au coffret. Alors tu te dis c'est vraiment nul, et puis finalement quand tu regardes ce bouquin, et ben il s'intègre assez bien et tu peux le lire assez facilement, ouais, puisque le coffret est bien fait, quoi.
Il est bloqué, je crois, le petit livre.
Oui, c'est ce que je viens de dire.
Ouais,
bah, alors au début tu te dis c'est choquant. Et finalement, ça se prend très bien en main, parce que le coffret est très bien fait, donc tu peux regarder, tu peux zioter. Alors, a priori, oui, t'es choqué, mais finalement, pas plus que ça, ça se prend très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans ce livret? Et là où j'étais vraiment surpris, c'est que d'habitude, on a des présentations bateaux avec avec les personnages et tout ça. Et ben là, on a un carnet rempli uniquement de croquis, de dessins préparatoires... et de choses comme ça qui sont vraiment magnifiques. Non, ça c'est vraiment superbe. C'était d'ailleurs, vraiment la, la grosse grosse surprise, ouais. Et j'ai vraiment vraiment bien apprécié d'avoir ce petit bouquin, parce que je suis un gros fan de tout ce qui est Art of Star Wars. Donc moi tout ce qui est là-dedans, ça me convient très bien, justement parce qu'en plus je voulais pas aller acheter le Art of the Clone Wars.
Moi j'ai deux petits commentaires à faire par rapport à ce petit livret. C'est que d'un côté, moi dans ma version anglaise, il peut être sorti, donc tu peux l'avoir dans tes mains plus correctement. Je trouve que je préfère l'avoir non collé dans le coffret. Et d'un autre côté, pour ceux qui ont le Blu-ray, ça fait un peu bon, c'est bien, j'adore les bouquins, donc moi je suis content. J'aime bien avoir une version un petit livre, mais pour ceux qui n'aiment pas plus que ça, pour ceux qui vont regarder après la partie Temple Jedi qui est exclusive à la version Blu-ray, tous ces petits croquis se retrouvent en haute définition.
Ah ouais. Et alors donc on a le droit aux 22 épisodes avec 7 en version Director's Cut. Mmh. Alors par contre ça c'est vachement mal branlé, parce que ouais on a des versions longues, mais le jour où t'arrives à les mettre en version longue, et bah t'es champion du monde. Alors j'essaye encore de trouver le moyen de faire. Alors certains diront que j'ai deux mains gauches, mais
normalement il y a pas les anciennes versions, hein. C'est que la seule version que tu lis, c'est la version longue.
Ah bah alors j'ai pas vu de différence.
Bah il y a beaucoup sur les forums américains qui n'ont pas trouvé de différence, effectivement, et c'est votre collègue de Dark Locoon sur SVU qui nous a justement mis toute une liste complète.
Ouais.
Des changements.
Des petits trucs, hein. C'est vraiment des détails, hein.
Bah ouais, parce que moi j'ai repéré ici une différence, c'était dans l'arc du Malevolence, justement. C'est le premier truc que j'ai regardé, vous pensez bien. Et c'était dans Shadow of Malevolence, quand il y a Yularen et Anakin qui sont en train de parler à l'escadron Shadow. Et là, mais c'est juste l'histoire de peut-être une phrase, quoi, ou quelque chose comme ça. Alors limite, tu te dis, si c'est vraiment ça, ce que tu viens de me dire, tu te dis, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un director's cut, quoi.
Mais apparemment, Dark Pokul, à ce que j'ai cru lire sur SVU, c'est que lui, il a vraiment revu les épisodes avec les...
Ouais, il les a comparés.
Ouais. Et donc on va peut-être, ça va être un peu long, mais on peut toujours les lire. Donc, ce qu'il a trouvé dans L'Aube du Malveillant, donc le titre anglais, j'en trouve le titre anglais quand même pour ceux qui connaîtraient plus le titre anglais que le titre français, donc c'est le premier épisode, donc c'est Rising Malevolence. Donc lui, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y a un plan supplémentaire... Il y a Ahsoka qui répond à Anakin quand celui-ci lui dicte la conduite à avoir face au conseil. Il y aurait un plan d'un droïde qui a un rire sadique après avoir entendu l'ordre de détruire les capsules de sauvetage. Il y a des plans et scènes inédites de la grande flotte de B1. Il y aurait des plans supplémentaires du Twilight à la recherche de Plo Koon et des dialogues complémentaires, et ainsi que des plans supplémentaires et dialogues des droïdes à la sortie de Plo Koon dans l'espace.
T'en as quand même pas des masses.
Non, c'est sûr, c'est les petits trucs qui doivent durer quelques petites secondes. Ensuite, maintenant c'est l'ombre du malveillant, donc Shadow of Malevolence, parce que le dernier épisode de Destroy Malevolence n'a pas de supplément. C'est drôle que les deux premiers y connaissent des rajouts et pas le troisième. Donc, dans l'ombre du malveillant, il y a un plan supplémentaire du meeting d'Anakin où les clones sont dubitatifs. Un plan alternatif du meeting d'Anakin, on se centre sur l'hologramme du malveillant. Dialogue clone et Anakin supplémentaire lors du meeting. et un dialogue complémentaire entre le Grievous et un droïde avant la destruction du dernier transport. Par contre, ce que j'aurais été trouvé intéressant, comme je l'avais dit dans une ancienne émission, c'est justement ce qu'ils fassent pour ces trois épisodes du Malveillant, c'est qu'ils les réunissent comme un seul épisode d'une heure. Je trouve que ça aurait pu être très intéressant.
Oh là là.
Non?
Bah non, je pense qu'il faut les laisser différencier.
Je trouve que ça aurait pu faire une sorte de petit mini-film d'une heure, qu'on aurait vu sans générique et sans présentation, c'est que d'une traite.
Dans les autres bonus, t'as aussi un aperçu de la saison 2, un aperçu du jeu Republic Heroes, StarWars.com, évidemment, les trucs du Temple Jedi avec quelques petits bonus. T'as tous les commentaires de Dave Filoni.
D'ailleurs, c'est pas déjà. Je croyais qu'au début que c'était les mêmes qu'ils avaient mis sur le site officiel, mais en fait, ils sont beaucoup plus différents. Ça reprend quelques images, mais pour la plupart, c'est des informations inédites.
D'accord. Et bon, moi, ce coffret Blu-ray, je l'ai touché à 45€. Ouais. Autrement dire que... Je l'ai acheté cher parce que je l'ai trouvé à la Fnac. Ouais. Et il y avait sur Internet, on le trouve à 39. À la place de 45, mais je pouvais pas Amazon. Attendre, donc...
Et je crois qu'il est même à 33€ sur Amazon.
Ouais. Donc,
Mais sinon, on n'a pas fini avec les Director's Cut.
Ouais, mais on va peut-être pas faire tous les épisodes. Donc, surtout si c'est pour dire quelques secondes à chaque truc. Bon, voilà.
Bah, je peux juste noter les épisodes qui ont une version longue. Donc, à part les deux premiers du Malveillant, il y a l'épisode Wookies, qui a une version longue. Et l'épisode de l'Era of Grievous, qui est plus long. Et les trois épisodes de la trilogie de Ryloth.
C'est un peu les meilleurs épisodes qui sont pas en version Director's Cut. Donc, ils savaient un peu lesquels étaient bons. Ouais, bon, pas Jedi par exemple, ou Gungan General, il y a pas
de... Ouais, ben voilà, mieux pas. Mais donc, finalement, ce coffret Blu-ray, même à 45€, ou ouais. Je voyais même sur certains sites 50€, 49€, c'est un truc qui vaut largement le coup, parce que la qualité en Blu-ray, cette série a été faite, je pense, vraiment pour du Blu-ray, quoi. On a une qualité des textures qu'on retrouve, même sur du 720p, qu'on ne retrouve pas. Et finalement, quand on y pense, 45€ pour un coffret de Blu-ray de 22 épisodes, c'est peanuts, hein, quand on voit parfois le prix des Blu-ray. Donc, je pense que c'est un truc, faut se jeter dessus.
Ah, je confirme.
Alors, moi, je me demandais justement, je l'ai pas encore acheté, parce que je me demandais si à un moment, je voulais attendre qu'ils sortent carrément l'intégrale de The Clone Wars pour m'acheter un méga coffret, avec, je sais pas, tu vois, des méga bonus en plus. Parce que
il va falloir attendre 5 ou 6 ans.
Et voilà.
Mais mine de rien, je sais pas, tu vois, parce que pas si c'est pour revendre mes coffrets de base et pour acheter l'ultime édition de toutes les saisons, je sais pas, tu vois.
Bah souvent en fait, à part vraiment les ressorties dernièrement, genre j'en reviens sur Battlestar Galactica, qui eux en ressortant les intégrales, ils font des bonus en plus. Généralement, c'est vraiment la même chose, je veux dire. Généralement, je sais qu'ils font des séries en intégrale, genre Veronica Mars, Heroes et tout ça, c'est vraiment la même version que le DVD, ils ressortent juste d'un nouveau coffret. Mais sinon, les bonus sont les mêmes, c'est rare quand même. Bon, c'est vrai qu'on est dans Star Wars, donc évidemment, ça m'étonnerait pas qu'ils rajoutent des trucs. Mais sinon, généralement, c'est rare quand même, quand ils font des intégrales de séries, de rajouter d'autres bonus.
Et la qualité du coffret DVD est moins bonne que le coffret Blu-ray, ou?
Dans quel sens? Parce que...
Je veux dire, est-ce que c'est les mêmes visuels? Est-ce que c'est les mêmes bonus? Est-ce qu'il y a ce livret?
Le livret aussi. Je crois qu'il est dans la version DVD, parce que j'ai pas eu d'écho, mais je sais que tous les bonus y sont, sauf la partie Temple Jedi, qui est exclusif à la version DVD, parce que ça va être vraiment du truc assez lourd. Blu-ray. Parce que ça va être une partie assez lourde et c'est un petit peu interactif, donc je pense qu'il pouvait pas le faire sur le DVD.
D'accord.
Mais sinon,
c'est quand même un très très bel objet, quoi. Franchement.
Mais je crois, je vais vérifier rapidement sur Amazon.
Et puis, en plus, pour une fois qu'on n'a pas un visuel à la con pour un DVD Star Wars, là, qui nous sort depuis je sais pas combien de temps, ça fait quand même du bien.
Le visuel du DVD du film était pas mal avec le clone aussi.
Oui. Non, mais moi je parlais des autres films, des vrais films après. Ouais. Parce que les films.
À lui.
Ah ouais, les DVD à l'unité, tout ça, faut voir que, ah, le manque de goût, quoi. Alors qu'à l'origine, quand ils pensent à la trilogie classique, les affiches étaient superbes, tu sais, ils auraient pu les reprendre un petit peu. Bah non, c'est, ils foutent des trucs bien horribles. Des trucs moches à souhait et tout. Ah, ça, c'est encore la faute de Dave Filoni, quoi.
Oui, oui, le petit livret est bien compris, dans la version DVD. En tout cas, en Amérique.
D'accord.
Je pense que si c'est exactement pareil, je pense qu'ils ont fait la même chose.
Alors, on a exactement la même, de toute façon.
Ah, oui.
Bon. Mesdames, on va peut-être conclure.
Un petit commentaire, comme sur le prochain épisode, non?
J'arrivais, ouais.
Vas-y.
Donc, j'allais dire, il faudra attendre le 1er janvier prochain pour la suite de la seconde saison, sur Cartoon Network.
Oh non!
Avec la diffusion des épisodes 9 et 10, respectivement, Grievous Intrigue et The Deserter. Le second titre n'est pas encore officiellement confirmé, mais il a l'air d'être sûr. Et nous n'avons pas encore de synopsis, bien que le premier titre indique fortement.
Il y en a un de synopsis.
Ah bon?
Si, il y en a un.
Ah, oui.
Tu vois bien que tu vas pas assez sur Star Wars Universe, toi, hein. Parce que sinon tu les aurais les synopsis.
Il y en a un même sur Camille Web, hein, je crois que c'est même.
Non mais il est mauvais sur Camille Web, c'est toujours mauvais.
C'est même toi qui l'a posté. Le synopsis
Allez, c'est parti. Le maître Jedi Headcott est capturé et torturé par le général Grievous après que ce dernier ait détruit sa flotte. Le cyborg futé veut attirer les autres Jedi et il veut y arriver comme si c'était un cyborg. En effet, Anakin, Obi-Wan et Adigalia décident d'aller secourir leurs camarades et d'arrêter Grievous.
D'ailleurs, deuxième souci, Adigalia, pour moi, elle est plus dans le conseil, non? À cette époque-là, elle a pas été zigouillée aussi, non?
Non, mais elle prend une tarte à Boss Pity, Adigalia, si je me rappelle bien.
Elle y est plus après dans le 3, hein.
Non, c'est ça.
Non, elle est pas dans le conseil, mais
Est-ce qu'elle se fait pas zigouiller justement par Grievous? Et il me semble.
Non, apparemment, elle est morte dans la bataille de Jawn. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, pas du tout.
Boss Pity, elle est accompagnée par Mace Windu, elle se retrouve nez à nez avec Grievous, et elle est tuée par Grievous devant Mace Windu. Alors, est-ce que ils vont faire mourir Scott et Adigalia tués par Grievous dans cet épisode? Et là, on aura une superbe incohérence, comme tu dirais, lui. Et là, t'auras de quoi râler, quoi.
Je sais pas, je les
vois. Non, mais de toute façon, Boss Pity, c'est à la fin de la guerre des clones, donc elle peut bien apparaître, c'est pas un problème, hein.
Mais de toute façon, je crois pas que je les vois pas tuer des grands Jedi dans la
série. Ça serait bien, un peu, ça crédibiliserait un peu Grievous, quoi. Ouais, si ça donnera une incohérence de plus,
tais-toi, ou tu seras flagellé en place publique, écartelé.
Et sinon, le déserteur, là, d'après vous, ce serait plutôt dans quel camp?
Je pense que ça va être du côté séparatiste, parce que je me demande s'ils font ça encore du côté républicain. Je pense que les gens font trop le rapport avec justement le clone qui veut s'en aller justement dans l'épisode Hidden Enemy.
Je pense qu'il y aura un Roger qui va déserter, quoi.
Peut-être pas, non, mais peut-être un séparatiste, peut-être Pogol.
Pogol?
Ah oui, ouais. Comme ça, il pourra revenir pour Mustapha.
Ouais. Il désert. Bon. Il fait croire qu'il est...
Allez, arrêtez de raconter des conneries, là. C'est, y en a marre, quoi, hein. Franchement.
Et par contre, juste petite info, vous parliez tout à l'heure du DVD Blu-ray, dedans, apparemment, j'ai vu qu'ils annonçaient le retour de Zero the Hutt dans la deuxième saison. Alors, peut-être qu'on va le voir.
Génial!
Attends, il est bien, Zero the Hutt.
Ah oui, il est génial. Surtout sa voix, une vieille voix de pédale,
là. Un peu le concept, je crois, du Zero.
Bah, de toute façon, on peut pas lui en vouloir, il est hermaphrodite.
c'est difficile de se trouver quand t'es Hutt et hermaphrodite, je pense.
Finalement, t'as pas trop à trouver, tu peux faire ce que tu veux, puisque t'es hermaphrodite.
Ouais, mais justement,
ils ont tout compris, au moins, tu vois, moi je dis, en France, il faudrait qu'on soit tous hermaphrodites, comme ça, il y aura plus de polémique.
Il faudrait qu'on soit tous des
là, parce qu'on est en train de se craquer. Bon, allez.
C'est la dernière émission de l'année, donc on se déchaîne un peu.
Allez, merci à tous d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct édition The Clone Wars. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes d'hermaphrodite sur Twitter. Ne manquez pas notre prochaine émission de l'édition The Clone Wars en janvier 2010. D'ici là, l'équipe vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. De la part de Thomas, Henri et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.